On est place de la nation, on reprend le texte d'Ernest Renan sur qu'est-ce que la nation. Il a une définition toute simple et très belle, avoir souffert, donc ça c'est on va dire Charlie, joui, donc ça c'est les fêtes festives, etc. Et espérer ensemble. Et peut-être que espérer ensemble, c'est les mouvements plus citoyens,
oui, plus politiques,
etc. Donc il faut avoir, qu'est-ce qui fait une nation? C'est ces trois composantes-là.
Nova.
Rouge piéton, contre-allée, place de la nation.
Nova. Nova promène ses oreilles. Liberté.
Liberté. République.
Souveraineté.
Humanité.
Égalité.
Place de la nation.
Peuple.
Fraternité.
Démocratie. Jacques Souvent.
Nova.
Nation.
Bienvenue Place de la Nation à Paris. Une émission qui se déroule avec vous sur la place. On se croise, on se revoit, on imagine, on se rencontre. On explore l'espace public, l'espace des possibles. Une place que l'on traverse, une place où l'on se pose et où on laisse aussi surgir la parole au détour des regards. Comment se réapproprier l'espace public aujourd'hui et envisager le commun à venir? Cette semaine, deuxième partie de l'émission consacrée au regard de Cynthia Fleury sur l'espace public. On marche, on parle intrication, individuation, collectif, souci de soi, risque, sublimation. Être ou devenir un parésiaste sur la place. Être ce chevalier à la recherche de soi. Devenir roi de soi-même. Tenter d'être libre. On s'oblige soi-même. On n'oblige pas les autres, écrit la philosophe et psychanalyste dans son livre La fin du courage. Aller au devant de sa peur et prendre le risque de dire vrai. Et que tout ne soit plus jamais comme avant. Tout dire et tout se dire. Devenir courageux. C'est un peu de ce beau risque que nous abordons cette semaine avec Cynthia Fleury.
Quand on traverse l'espace public, on est souvent occupé par ses affaires et on a effectivement peur, ou en tout cas on ne va pas vers l'autre forcément directement. Est-ce que se connaître soi-même, être en accord avec soi-même, est-ce que c'est aussi la capacité de rencontrer l'autre mieux?
Bah normalement, oui. Normalement, en tout cas, moi, j'ai essayé dans mes travaux de montrer que plus on allait vers ce qu'on, en philosophie, on appelle le souci de soi, c'est-à-dire la tentative de faire émerger un processus d'individuation, plus on prenait la juste mesure de la nécessité de la relation avec autrui. Parce qu'il n'y a pas d'individuation sans cette densité relationnelle avec les autres. Et d'ailleurs, on voit que dès que la qualité relationnelle est atteinte, le sujet dépérit, littéralement. Il est mis en danger. Et donc, à la fois, il grandit dans sa différenciation, dans sa singularité, et donc il se différencie, et en même temps, il ne le fait que précisément parce qu'il a un environnement qui lui permet de faire ceci. Et cet environnement, ça va pas simplement de sa sphère affective. On a donné un cours, là, récemment, avec Frédéric Worms à la chaire de philosophie à l'hôpital, tous les deux autour de Bettelheim. Et Bettelheim, psychanalyste, psychiatre, a subi une rafle à Vienne, et puis en 38, je crois, et puis il est allé vivre dans les camps. Et à partir de son expérience dans les camps, à Buchenwald, à Dachau, je crois, à partir de son expérience dans les camps, il a, comment dire, élaborer une théorie de la schizophrénie, en tout cas de réaction à la situation extrême. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Alors que ça paraît évident aujourd'hui, il a découvert que lui, en tant que psychanalyste, l'environnement malsain, comme dit Paul Celan, le lait noir, c'est-à-dire l'univers parental désastreux, bien évidemment, il savait depuis toujours que ça faisait des dégâts énormes sur la psyché humaine. Et puis, il découvre dans les camps qu'en fait, on n'a pas besoin d'aimer l'autre pour être détruit par l'autre. On n'a pas besoin de lui attacher une importance. On peut être détruit par l'autre alors qu'on le méprise, alors qu'on ne s'en soucie pas, alors qu'il ne correspond à rien dans son univers de valeurs et que tout d'un coup, un environnement, même si affectivement il n'est pas proche de vous, il peut mettre profondément délétère et il peut vous détruire. Détruire intégralement, alors physiquement, bien sûr, mais psychiquement aussi. Et pas simplement que physiquement. C'est-à-dire psychiquement, vous êtes détruit par l'action mortifère d'êtres que vous méprisez par ailleurs, dont vous avez strictement rien à faire, etc., etc. Et d'être à la merci de cela met à mal votre sujet. Donc, l'enjeu, bien évidemment, c'est que l'espace public, par exemple, soit un lieu où on se... Voilà, où le...
L'environnement de sécurité, bah, en sécurité.
Exactement, où l'environnement, à la fois avec les autres citoyens, l'environnement avec... L'environnement institutionnel, le sentiment que, tiens, il y a des politiques publiques un peu, il y a des institutions qui sont là, c'est important pour... précisément avoir ce sentiment sécuritaire, mais sécuritaire au sens d'une sécurité ontologique, d'une non-inquiétude qui fait que, ah bah tiens, tout d'un coup, je peux déployer mon être un petit peu plus, selon certaines règles. Donc on voit très bien le lien entre, moi, ce que j'ai appelé l'irremplaçabilité dans mon livre sur les irremplaçables, c'est-à-dire vraiment le fait que un individu sera le plus à même de protéger la démocratie parce que lui-même a mis en place ce processus d'individuation, alors que si petit à petit il est détruit par un environnement institutionnel, lui-même, par réaction, il sera souvent dans des situations plus clivantes et plus de résistance. Hein. Donc soit des passages à l'acte vers soi-même, soit des passages à l'acte contre les autres.
Moi, je suis content de vous avoir ici sur cette place parce que je trouve que vos travaux, ils relient vraiment cette relation entre l'intime et le collectif, quoi. Enfin, entre l'individu et le collectif. Et je voudrais revenir sur cette notion d'individuation parce qu'elle allie pour moi le courage aussi de faire face à ce qui nous manque, le courage de savoir qui on est. C'est quand même un parcours très, très, très compliqué.
Ah oui, oui, non.
On est d'accord.
Oui, je vous rassure, ça occupe une vie, hein, même plusieurs. Puisque généralement, vous récupérez bien évidemment les siècles de névroses familiales ou autres qui vous ont précédé. Et crac, voilà, vous supportez ça. Donc je veux dire par là qu'en plus, la libération de soi-même, elle est généralement intriquée dans des libérations qui sont celles de sa famille, qui sont celles de sa société, qui sont celles de sa culture, etc.
Et intriquée, vous voulez dire que c'est la conséquence, une conséquence ?
Voilà, oui, c'est-à-dire elles sont intriquées. C'est-à-dire qu'elles, effectivement, c'est dialectique. Elles sont, voilà, elles peuvent se modifier dans un sens ou au contraire s'empêcher dans l'autre. Alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous libérer, quoi. Oui, et vous dites, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai les mains liées alors que non. Je ne veux pas avoir les mains liées, etc. Mais tout simplement parce que ça se joue aussi. Hein, vous êtes l'enfant de ces différents moments d'individuation des uns et des autres. Et puis l'espace public, c'est aussi ce lieu où on tisse du récit collectif. On travaille un peu différemment autour de la mémoire. Alors il y a la commémoration, bien sûr, mais il n'y a pas que la commémoration. Il y a commémorer, c'est vraiment comprendre comment la mémoire nous constitue et comment elle nous permet, bien évidemment, d'avancer plus sereinement vers l'avenir. Une des définitions des commons, des biens publics, notamment, c'est le critère de non-rivalité et de non-exclusion. Hein, c'est comme ça qu'on le dit, non-rivalité, c'est-à-dire que quand je viens ici marcher, je n'empêche pas quelqu'un d'autre de venir ici marcher. Alors c'est ça justement, c'est pour ça que la question du passage, parce que si on est des millions ici tout le temps, on empêche les gens de venir marcher. Donc il y a un problème de non-rivalité. Hein, donc il y a des seuils, et donc ces seuils doivent être préservés pour que la non-rivalité existe et la non-exclusion, c'est-à-dire que chacun peut y venir et prendre ce qu'un autre a pris sans que la ressource soit mise en danger.
Jacques Souvent.
Humanité.
Démocratie. Égalité. Place de la nation. Nova.
Étrange sentiment d'appartenance à un monde varié, mais dans lequel on me refuse la diversité. Nous sommes des clichés, enfermés dans une trop étroite identité. Mais je ne peux plus m'enfermer dans celui qu'on me désigne. Aucune définition réductrice ne m'agrippe. Je ne peux m'empêcher d'être l'un. Et le multi. J'ai le sens du rythme et la mélodie linéaire, la voix aiguë mais le propos grave et austère. Adolescence française, regard russe et langue algérienne, la pensée universelle et l'ambition planétaire. Rempli de compassion mais vide de condescendance, train de vie brouillon et flou mais brodé d'ambition claire. Identité effritée qui vole au vent dans les ronces, mes techs présents par l'esprit mais dont on ne voit que la chair. Pourtant je porte le centre, les périphéries, la phrase et la réplique, la rime lourde, le flow léger, difficile, métrique. Piteux, précaire et artiste, j'ai le statut bas et fixe, mais les tripes de faire la zig d'élite que mon ego mérite. Alors dans ce monde varié, offert en son étrange ensemble, je ne peux me résigner à n'être qu'un. Et ce que ça arrange de nous mettre dans des cases et des franges, mon exemple brise leurs clichés, dérange et miette leur pain quotidien. On se veut unique mais on devient viande de plus en plus tendre, rentrant dans des cases telles des offrandes à la loi marchande. Et même si on tente de se démarquer, on alimente un nouveau cliché qu'on vante, et au final on fait que ça on représente. Alors être valable se confond avec vendable, récupérable, humain interchangeable et sur le tard, s'exécuter dans un système qui vend ses citoyens comme son âme. À force d'être assimilable, on finira en code-barre. Individu consommable mis dans des cases inflexibles. Et si je brise les chaînes invisibles des identités hybrides, la complexité sera ma résistance, mon fond de commerce. Cela fera de moi un mauvais commercial mais un homme libre. Non aligné, je me faufile dans les strates et de mon poids fait tourbillonner diversité sur les visages hagards. Nos règles sont telles qu'en tant que un, je m'incline devant toi, mais ça étendra mon multiple loin au-dessus de ton regard. Appelle ça du rap, du slam, du punk, ça ne me regarde plus. Quand tu mets mon pied dans une case, sais-tu où l'autre se situe? Si loin que c'est ça, être un géant, commercialement c'est gênant. Perdre son rendement dans mes bas-fonds sans issue. Et au fond du trip, j'ai atteint ton esprit là où ça rippe. Le système t'attendait assimilé et réduit comme une icône qui s'agite. Mais tu retrouves les paradoxes, les contrastes et tu flippes dans ce face-à-face entre l'un et le multiple.
Place de la nation.
Nova. Rosset sur Nova, l'un et le multiple. On retourne sur la place de la nation avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury.
Je voudrais revenir sur une chose sur l'individu par rapport au collectif auquel je tiens. C'est ce processus inaugural. C'est ce processus inaugural qui fait qu'on va prendre la décision de se libérer.
Ah, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'à la fois, je pense que...
Vous dites aussi le courage, ça s'apprend.
Oui, oui, oui.
Donc il y a une pratique.
Il y a une pratique du courage. Il y a un oubli aussi, parfois, qui se fait sans conscientisation de cet oubli. Et parce que par toute une série de négociations avec l'inacceptable, des petites capitulations, de l'usure. Hein. La stratégie de l'usure est quelque chose de très, très dur parce que les uns et les autres, on tient... aller un certain temps et puis à un moment donné face à une bureaucratie, face à une institution qui a perdu son âme et qui est dans essentiellement machinale, bah vous pliez le genou quoi, et donc c'est compliqué. Donc la stratégie de l'usure est aujourd'hui la stratégie classique de destruction de l'autre.
On accepte quoi, on n'en peut plus, on accepte, on en a marre.
Bon, donc ça effectivement il faut faire très 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 attention à cela. Et alors il y a plusieurs seuils. Le seuil inaugural de la décision, comme disait Jean Kelevitch, ça peut se faire par la souffrance, par le fait que tout d'un coup on n'en peut plus. Donc il y a même pas, c'est même plus une question de courage, une question de survie, quoi. Mais souvent, la survie, ça peut être aussi d'accepter l'inacceptable. Hein. Donc, c'est pas les stratégies de survie sont multiples. Et donc, il y a ce phénomène de souffrance qui réveille. Il peut y avoir des événements extérieurs, un deuil, le fait de perdre quelqu'un, le fait de vivre un événement collectif. Comment dire, désastre, traumatique. Voilà, ouais. Donc ça, espèce d'arrêt, de réveil, de sortie de soi, quoi, où on dit, mais voilà. Donc il y a toutes ces choses-là. Parfois, il y a simplement une petite conscientisation un peu plus fine du malaise qu'on a, c'est-à-dire on n'est pas dans l'arrêt, on n'est pas non plus dans vraiment le grand enthousiasme. Il y a comme une espèce de chape de plomb permanente. Et c'est lourd, quoi. Et on est un petit peu plus sensible à ça. Pourquoi ? Parce qu'on vieillit, parce que ceci, parce que cela, parce qu'éventuellement, il y a quelques petits dysfonctionnements. C'est très... On ne sait jamais pourquoi quelqu'un, tout d'un coup, ne supporte plus ce qu'il supportait jadis. Et l'enjeu, ensuite, c'est qu'à partir du moment où il y a ce déclic, bah, c'est d'en faire quelque chose. Parce que sinon, ça peut être aussi un grand moment de déception et encore plus de dépression, parce que si vous n'en faites rien, il y a quelque chose qui signe là votre impuissance et qui est compliqué. Donc, résultat, il faut en faire quelque chose. Alors, comment on en fait quelque chose ? On peut en faire quelque chose tout seul, soi-même.
Oui, il y a des grands moments de solitude. Le courageux, il est très solitaire aussi.
Ah, mais c'est la base. La base, c'est différent. On en fera de toute façon. Il faut en faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut être plusieurs. Il faut en faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle de la sublimation. C'est-à-dire qu'il y a là un problème et puis il va falloir créer un effet de seuil. Il va falloir, de manière paradigmatique, emmener la chose ailleurs. Et ça, c'est de la sublimation. Et la sublimation, on peut la faire seule. D'abord, on la fait toujours seule. C'est la base. La base, c'est la solitude, non pas au sens de l'isolement, mais la solitude au sens de l'individuation, le fait qu'on investit intégralement un sujet, le solipsisme.
Donc, de ne pas chercher forcément de reconnaissance envers l'autre, etc.
Ça, surtout ça serait pas... fantastique, ça serait merveilleux. Mais en même temps, on a besoin de reconnaissance. Mais c'est vrai que si on peut un peu lâcher sur ce que Axel Honneth appelle les reconnaissances falsifiées, c'est mieux. Parce que, de fait, ça nous met dans une espèce d'une machine à laver permanente.
Ça pose ailleurs. Ouais.
C'est insupportable, quoi. Bon. Mais aussi, vous pouvez être accompagné. Alors, accompagné par un être que vous aimez, des amis, par éventuellement un analyste, un thérapeute, qui sais-je, par un livre. Voilà, c'est-à-dire que l'enjeu, en revanche, c'est qu'à partir du moment où vous avez conscientisé que, tiens, il y a eu un arrêt, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, fait que le sentiment vital qui est le vôtre est atteint, bah, à ce moment-là, il faut voir comment on transforme cela. Et généralement, on transforme ça par le travail au sens de work, c'est-à-dire au sens de l'œuvre, c'est-à-dire au sens de la sublimation, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose. C'est de la création. C'est pour ça que souvent, les artistes, entre guillemets, sont un tout petit peu plus facile pour eux de vivre ces moments de rupture, parce qu'ils ont comme un geste un peu habitué, un ethos, comme ça, une manière d'être, un style qui fait qu'ils sont habitués à créer. Alors donc, naturellement, ils vont aller sublimer assez facilement. Les autres, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas leur univers. Et bien évidemment, on sublime de multiples façons. On sublime en marchant, on sublime en faisant de la cuisine, en simplement embrassant son enfant. Enfin, c'est vraiment pas le problème, quoi. Mais... faut-il encore en avoir conscience qu'on transforme quelque chose en faisant cela ? Ce n'est pas toujours le cas.
Oui, et s'en satisfaire aussi.
Ouais, satisfait. Parce qu'il y a des sublimations qui sont plus ou moins reconnues, plus ou moins remarquées effectivement par les autres.
Acceptées.
Acceptées, jugées honorables ou pas.
Dans le monde du travail, par exemple.
Dans le monde du travail, oui.
Place de la Nation.
Nova.
Ce que révèle aussi l'analyse, alors je veux dire les choses, c'est déroutant, parce qu'il y a de l'incurable, bien sûr. Il y a toujours de l'incurable, mais l'incurable, ça ne veut pas dire de l'absence de sublimation. Donc c'est deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on soigne, on ne soigne pas la faille, on ne soigne pas la maladie, on déplace, c'est-à-dire qu'on crée autre chose. Donc il y a toujours la faille, mais il y a autre chose. Et le fait d'avoir cette autre chose fait que vous pouvez faire un jeu, vous pouvez naviguer, entre guillemets, avec la faille. Donc il y a de l'inquiétude.
Il y a un mouvement.
Il y a quelque chose où tout d'un coup, vous pouvez vous échapper. Quoi. C'est un peu une danse. Bon,
La danse de la faille.
Non, mais voilà. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens viennent avec cette idée que l'on va guérir le mal, que l'on va soigner la blessure. C'est pas ça l'analyse. L'analyse, c'est un, définir la blessure, la circonscrire, etc. Et dans un deuxième temps, faire en sorte que cette blessure ne suscite pas de ressentiment, mais que se produise plutôt indépendamment quelque chose de capacitaire, quelque chose qui va faire exister autre chose. Et c'est ça qu'on fait en tout cas. Alors il faut savoir aussi que pour ceux qui ont une petite allergie au pollen, c'est le lieu propice. Donc là, ça, c'est l'annonce.
Et donc on rejoint le vivant dans ce que vous dites là. On rejoint le vivant. Il y a Glissant qui disait rien n'est vrai, tout est vivant. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies quand même. Mais...
Oui, mais c'est une autre manière de voir ce qu'est la vérité. La vérité, c'est que ça bouge, c'est que ça résiste, c'est que ça se déplace, c'est que c'est en perpétuelle création. Donc... Et puis la vérité, c'est souvent des positionnements, comme dit Amartya Sen, des rationalités positionnelles, c'est-à-dire en gros, chacun de sa position développe une rationalité qui n'est pas non plus des erreurs, quoi. Ce sont des vraies rationalités, elles peuvent être parfois antinomiques, contradictoires ou complémentaires. Et donc la vérité, c'est aussi cette cartographie-là, et pas simplement un point, quoi.
Et donc pour finir cette articulation, alors j'ai le courage, je travaille, je crée, je produis, je sublime.
Je marche.
Et l'articulation avec l'autre, alors avec le commun là-dedans, est-ce qu'il y a un processus inaugural collectif possible ou alors...
C'est inséparable, je pense que si vous voulez, quand vous... À la fois c'est ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un acte solitaire, au niveau d'un certain type de décision, mais après c'est un acte de revitalisation permanent des relations avec autrui, parce que créer sans les autres, c'est extraordinairement compliqué, créer sans environnement, c'est compliqué, c'est voire même impossible. Donc tout dépend ce qu'on appelle les autres. La question de la sublimation, c'est souvent de la transmission, c'est souvent le sentiment d'inscrire quelque chose dans le temps, mais on inscrit quelque chose dans le temps avec l'âme des autres, parce que c'est l'âme des autres qui va faire vivre votre travail ou, je ne sais pas, votre œuvre plus tard. Bon, c'est absolument indissociable, c'est intriqué. Et voilà, et au fil de la vie, on découvre que... L'individualisme est absolument pas la meilleure façon de vivre ce qu'est un individu, et que, au contraire, précisément, il faut mettre en place des processus d'individuation, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque c'est vraiment une conscientisation extrême de son interdépendance avec les autres, et en même temps les tentatives de sublimer cette interdépendance pour précisément avoir un sentiment un peu de tiens, qu'est-ce que c'est mon désir, qu'est-ce que c'est ma liberté, tout en sachant que bon, ça peut être éventuellement illusoire, et donc on progresse comme ça.
Oui, la liberté pour quoi faire, ça peut être très angoissant comme question, quand on est en face de la vérité et que sa vie change du jour au lendemain, en une seconde, on bascule dans une autre existence, ça fait peur, on rejoint la peur, on rejoint toute cette angoisse de d'être vrai avec soi-même, quoi.
Le rapport à l'autre, ça nous rappelle aussi, si vous voulez, que y a un, et pas simplement ça, mais qu'il y a un risque, à prendre. Bon, donc et que pour bien penser, pour bien vivre, il y a des risques.
C'est Badiou qui disait « la guerre zéro mort, l'amour zéro risque ».
Ben voilà, et ça c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, mais ça donne quelque chose d'assez inerte, d'assez mortifère. Donc le risque est une dimension essentielle de la vie et de la pensée. Et donc résultat, le courage, si le risque est une dimension essentielle et de la pensée et de la vie, le courage est de fait une dimension éthique, hein, un caractère, une vertu, comme dirait Jean Kelevitch, une vertu cardinale essentielle, parce que sinon on n'arrive pas. ni à penser, et on n'arrive pas à vivre et on n'arrive pas à agir.
Il y a cette idée du souci de soi, de connaître, de savoir et de déterminer ce qui nous manque. Et ce n'est pas sans douleur. Mais c'est aussi une chance car on peut se dire que ce qui nous manque existe bien chez l'autre. Cette émission réalisée par Guillaume Giraud. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de novaplanète.com. Et d'ici là, c'est le retour du Grand Mix. Salut.
Je crois qu'on est bien là.
Ah ouais, on est bien
hein,
là.
On est bien.
On a le droit à un café
le
ou
petit
non
café, oui.
Place de la Nation. Nova promène ses oreilles.